à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, pourquoi certains ont-ils besoin de croire dans le surnaturel? Pourquoi croyons-nous en des choses paranormales, surtout en cette période de crise sanitaire? Dans quelle mesure nos croyances fondées ou infondées ont-elles le pouvoir de nous aider à aller mieux, grâce notamment au fameux effet placebo? Nous verrons de quelle façon les croyances jouent un rôle pour réduire le stress et l'anxiété. C'est le cas par exemple avec certains rituels et certaines superstitions. Nous verrons également comment fonctionnent les croyances d'un point de vue psychologique. Et puis nous verrons également comment repérer les gourous et les charlatans qui exploitent nos croyances dans une dérive sectaire. Nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 ou en nous laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Médecin et romancier, quel est le menu de votre chronique? Alors voilà.
On va parler mystère et transplantation rénale.
Et puis en fin d'émission, vous répondrez à la question suivante. Faut-il vacciner les enfants entre 5 et 11 ans? Le docteur Gérald Kierzek apportera son point de vue que vous partagerez ou pas, mon cher Baptiste. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
Où est la fontaine? Alors on leur expliquait bien, ben venez nous faire voir, venez nous faire voir. Alors je descendais leur faire voir où était la fontaine. Elle est là, ici, là, juste dans le creux qu'on voit où il y a de l'eau.
Elle n'a l'air de rien. Et pourtant on lui prête bien des vertus, notamment contre la terreur du nourrisson.
Moi j'ai toujours entendu dire ma défunte mère qu'elle était bonne pour la peur. Principalement. La peur, le rhumatisme, le rachitisme des gamins qui ne voulaient pas trop téter. Plus les stérilités des femmes.
Et on va essayer de comprendre ce matin ce type de croyance avec vous, notamment Yves-Alexandre Talman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et docteur en sciences naturelles et vous publiez chez Humaine Science La tentation du paranormal, pourquoi nous aimons autant le surnaturel. Bonjour Thierry Ripoll.
Bonjour.
Vous êtes professeur en psychologie cognitive à l'université Aix-Marseille et vous avez publié aux éditions Sciences Humaines « Pourquoi croit-on ? Psychologie des croyances ». Bonjour Frédéric Carpita.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste, chef de service au mensuel « Ça m'intéresse » et vous publiez ce mois-ci un dossier « Croire au merveilleux, pourquoi ça nous fait du bien ». Alors Baptiste Beaulieu, je commence avec vous. La croyance, c'est un outil thérapeutique. La croyance dans le lien thérapeutique, dans la thérapie, dans le médicament prescrit, ça s'appelle l'effet placebo?
Oui, l'effet placebo, c'est tout simple. Vous imaginez deux groupes. Un groupe auquel vous donnez un médicament sans principe actif, c'est-à-dire une substance sans principe actif, et un autre groupe auquel vous donnez rien. Ils ont la même maladie, et vous allez constater que dans le premier groupe, eh ben, les symptômes vont s'amender plus rapidement. Eh ben, c'est mystérieux. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce groupe-là alors qu'on n'a donné aucun principe actif? C'est ça l'effet placebo. Et il est contextuel, c'est-à-dire qu'il est totalement lié à l'alliance thérapeutique, à la manière dont on croit que notre praticien va prendre soin de nous, s'occupe de nous, pense à notre bien-être. C'est contextuel et ça dépend vraiment de l'alliance thérapeutique.
Baptiste Beaulieu, si vous me prescrivez un médicament, il aura plus d'effet entre guillemets si je crois à l'alliance thérapeutique, si je crois au bienfait de ce médicament.
C'est même plus fort que ça, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que certains médicaments seront plus efficaces en fonction de leur couleur, c'est-à-dire si un médicament rouge aura plus d'effet sur certains patients qu'un médicament bleu. Un médicament, si vous le prenez et qu'il vous fait mal, il aura plus d'effet. C'est-à-dire qu'un même pharmacodynamie, même pharmacocinétique, c'est-à-dire même absorption, si je vous injecte un médicament plutôt que si je vous le fais prendre par la bouche, et ben comme vous aurez eu mal au cours de l'injection, probablement que l'effet placebo sera plus fort. Parce que comme vous avez eu mal, c'est qu'il doit être plus efficace.
Alors les croyances sont au cœur de cette émission ce matin. Croyance, c'est un terme polysémique, hein, Thierry Ripoll. On peut croire en Dieu, au Père Noël, croire que le coronavirus a été fabriqué dans un laboratoire chinois. C'est un terme qui englobe des choses très vastes, hein.
Oui, tout à fait. La capacité de croire, notre propension naturelle de croire en tant qu'humain, peut se porter sur des objets totalement différents. Enfin, il y a une infinie variété de contenus de croyances. Par contre, ce qui est intéressant, et je pense qu'il faut rappeler, c'est que sous-jacent à ces croyances, il y a en fait des processus qui sont très similaires, voire identiques. Il y a des petites variantes, mais globalement, si on fait une analyse du fonctionnement cognitif d'un individu, à partir de tests standardisés, on peut, sans trop prendre de risque de se tromper, dire que voilà, telle personne sera plutôt croyante ou plutôt sceptique.
Ouais. Qu'est-ce qu'une croyance d'un point de vue mental, Thierry Ripoll?
Alors, Alors, bon, moi, la croyance qui m'intéresse, celle que j'étudie, je pense qui est au cœur de votre émission, ce sont les croyances qui sont infondées, c'est-à-dire des croyances qui ne reposent ni sur des données empiriques que l'on peut objectiver, ni sur des arguments théoriques forts. Et c'est ça qui est fascinant, c'est la capacité des humains d'accorder un crédit immense, jusque potentiellement à faire don de sa vie, pour quelque chose qui est soutenu ni empiriquement, ni théoriquement. C'est ce type de croyance qui est particulièrement fascinant et qui est probablement une spécificité du cerveau humain.
C'est ce qui vous fascine également, hein, Yves-Alexandre Talman, non ?
Oui, moi ce qui m'intéresse c'est le mécanisme de la croyance, c'est-à-dire pourquoi on croit à ce que l'on croit, et là on retrouve bien sûr ces mécanismes cognitifs, notamment des biais, ces fameux biais qui sont à la mode hein, à l'heure actuelle, comme le biais de confirmation, qui m'amène à voir davantage d'éléments en faveur de mon idée préconçue que ceux qui pourraient s'y opposer.
Thierry Ripoll, le danger des croyances, c'est de mettre sur le même plan des croyances très hétérogènes. Croire que le vaccin contre le Covid est efficace, ou croire que le vaccin contient des substances qui permettent de nous connecter à la 5G. C'est ça qui est compliqué avec les croyances.
Ben, disons que une croyance n'est pas nécessairement fausse. Hein, je veux dire, vous pouvez avoir des croyances qui vont s'avérer justes, mais la probabilité qu'elle le soit est quand même grande. Et donc, si vous calez votre vie, quelles que soient les décisions vous avez à prendre, si vous calez votre vie sur une croyance qui est infondée et qui est potentiellement fausse, vous prenez un risque d'adopter un comportement qui va être contre-productif, voire qui va être dangereux. Donc les croyances, on présente certains avantages au niveau individuel, sur lequel on reviendra peut-être, mais elles présentent aussi un danger individuel et surtout un danger collectif.
Le problème, c'est qu'on met bien souvent sur le même plan des croyances fondées et des croyances infondées.
Bah, une croyance fondée, c'est plus une croyance de mon point de vue. À ce moment-là, c'est une hypothèse. Lorsqu'un scientifique développe une hypothèse, on peut dire qu'au moment où il s'agit d'une hypothèse, c'est quelque chose qui relève encore de la croyance, puisque ça n'a pas été validé. Mais une fois que ça a été validé, à ce moment-là, ça sort du statut de croyance et ça devient, on va dire, une connaissance. Donc, il y a presque un pléonasme dans croyance infondée, mais je le rappelle pour dire que ce qui est fort dans une croyance, c'est qu'elle peut mobiliser un individu dans des comportements potentiellement dangereux, alors que la croyance sur laquelle il s'appuie repose sur rien.
Alors, pour vous, Thierry Ripoll, les croyances infondées ne s'appuient pas sur des données empiriques sérieuses, ni sur des arguments théoriques incontestables, hein.
Absolument, c'est évident. On pourrait prendre tous les cas que vous voulez, mais à chaque fois qu'on parle de croyances infondées, que ce soit dans le domaine du paranormal ou de médecine alternative ou de ce que vous voulez, y compris de la religion d'ailleurs, il y a tout simplement rien qui permet de légitimer ces croyances. Ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter nécessairement, mais en tout cas, on ne dispose pas d'informations objectives qui permettraient de les soutenir.
Yves-Alexandre Talman, pourquoi aimons-nous autant ces croyances infondées ?
Elles nous apportent un bénéfice, ne serait-ce qu'en termes de nous réduire l'anxiété, nous donner espoir. Penser à la croyance aux fantômes ou à la vie après la vie, aux vies antérieures, tout ça renvoie à l'idée que la mort n'est pas la fin, la mort du corps physique n'est pas la fin, donc c'est porteur d'espoir. Alors ça, c'est déjà un bénéfice de réduire l'anxiété.
Qu'est-ce qui se passe, Thierry Ripoll, dans notre cerveau quand on croit à ce type de croyances infondées ? On privilégie un raisonnement intuitif plutôt qu'un raisonnement analytique. Expliquez-nous de façon pédagogique ces deux types de raisonnement, intuitif ou analytique.
Alors, c'est assez simple. En fait, votre cerveau a deux modes différents de traitement de l'information et chaque humain dispose de ces deux modes différents de traitement de l'information. Que l'on va exploiter plus ou moins selon les individus et selon le contexte, c'est important. Et ces deux modes de traitement de l'information, il y en a un qui est plutôt intuitif, c'est-à-dire qui est très rapide, qui va conclure de manière très hâtive alors même qu'il ne dispose pas d'informations suffisantes. C'est quelque chose qui est tout à fait adaptatif parce que dans notre environnement naturel, parfois il faut décider vite. Le système analytique est un système, ou le traitement analytique est un système qui est beaucoup plus lent, qui va avancer de manière beaucoup plus rigoureuse, parfois de manière logique, et qui va peut-être parfois faire contrepoids au système intuitif. Le problème, c'est que ces deux systèmes ont leur intérêt, ont leur raison d'être, mais lorsque le système intuitif fonctionne de manière trop autonome, à ce moment-là, il produit naturellement des croyances. Et quand on teste des individus pour voir si leur mode privilégié de fonctionnement cognitif est intuitif ou analytique, on s'aperçoit que les sujets les plus intuitifs, tels qu'on le définit en psychologie cognitive, les sujets les plus intuitifs sont ceux qui vont être le plus croyants, les plus crédules.
Ceux qui croient davantage aux croyances magiques. Yves-Alexandre Talman, est-ce si grave que ça pour la santé mentale de croire en des choses infondées ?
Oh, alors ce serait pas à moi de répondre à cette question, mais par contre, c'est là où je crois qu'il y a la particularité de mon texte, c'est que j'essaie pas de critiquer, de fustiger un camp ou l'autre, parce que c'est ça qu'on entend, il y a ceux qui croient au paranormal et qui traitent les autres, on va dire, de scientistes ou de personnes bornées, et puis à l'inverse, on aurait tendance à penser que c'est des gens crédules. Moi, je prends une autre approche parce que, je dois l'avouer, j'ai aussi adhéré à des croyances. J'ai étudié l'astrologie aussi, tout scientifique que je sois. Et donc, je pense avoir fait un petit peu le tour du biais de confirmation. J'en suis pas guéri, on peut pas s'en guérir. Mais par contre, j'essaie d'apporter une réflexion sur qu'est-ce qui fait qu'on y adhère plutôt que c'est bien ou c'est mal d'y adhérer.
Frédéric Carpita, depuis le début de la crise sanitaire, jamais les croyances infondées, le merveilleux, le surnaturel, ne s'est aussi bien porté.
Alors, moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis pas côté prédiction, je suis pas très bon en fait, donc je vais pas me risquer là-dessus. Moi, quand j'ai proposé le dossier sur le merveilleux et la magie, je me suis dit à la fin de l'année, tous les Français auront besoin de merveilleux et de magie. Et là, je me suis vraiment royalement planté. On est reparti dans une période anxiogène. En tout cas, je poursuis ce que vous disiez, c'est que c'est poser la question, en fait, dans un dossier comme celui-là, c'est est-ce qu'on fustige ou est-ce qu'on moque ou est-ce que on fait témoigner. Et en fait, on est resté. Je me suis dit, c'est plus intéressant de rester au premier degré et de voir comment, d'essayer de comprendre comment des gens peuvent, enfin, qui eux sont investis puisqu'ils en ont fait leur métier. Comment ils arrivent à structurer cette pensée. Ils parlent pas forcément de croyance. Eux, ce qui mettent en avant, évidemment, c'est un quelconque talent ou une prédisposition ou un don. Et ça me paraît plus mystérieux. Et la question que je me posais, j'en profite puisque vous êtes en face de moi, c'est est-ce qu'il y aurait réellement une prédisposition ou est-ce qu'on l'a construit un jour à la suite d'un accident ou d'un épisode très douloureux, éventuellement ?
Yves-Alexandre Talman.
J'aurais tendance à dire que c'est une histoire qu'on se raconte, comme toutes les histoires qu'on se raconte. Au niveau cognitif, on est dans la réduction de la dissonance cognitive, donc je dois expliquer le pourquoi et le comment. Mais ce que j'entends très souvent, c'est des personnes qui disent, si par exemple elles sont médiums ou qu'elles ont un don quelconque, qu'elles ne l'ont pas souhaité ni travaillé, mais qu'elles l'ont découvert. C'est un petit peu comme si elles ne pouvaient pas y échapper. Ce qui renforce encore l'aura de mystère, parce que ça nous écarte de la personne qui en ferait un business, enfin pour gagner sa vie simplement.
Vous parlez de réduction de la dissonance cognitive. Qu'est-ce que la dissonance cognitive, en quelques mots ?
C'est juste une contradiction interne entre deux pensées ou entre un acte et une pensée. Typique, le fumeur qui sait qu'il se détruit la santé en fumant, mais qui se donne une bonne excuse ou une justification, auto-justification.
Bonjour Jean-Laurent Casselli.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste et vous avez coécrit La France sous les yeux. Nous vous avions reçu il y a quelques jours. Jean-Laurent Casselli, la France fut longtemps la fille aînée de l'Église catholique, une France qui croit de moins en moins en Dieu, mais une France de plus en plus intéressée par l'ésotérisme, le chamanisme, le New Age, le yoga, notamment dans les jeunes générations. Vous parlez dans votre livre de patchwork spirituel français. Selon un sondage de l'IFOP pour la revue Mission, 49% des Français se définissent en quête spirituelle, et puis 28% des Français déclarent croire à la sorcellerie.
Oui, c'est le paradoxe de l'époque, c'est que, comme on le montre avec mon co-auteur Jérôme Fourquet dans ce livre, en fait, la religion quelque part traditionnelle, le catholicisme a chuté, en fait, s'est effondré, On le voit par exemple à travers la proportion des baptisés, hein, qui aujourd'hui sont minoritaires, alors qu'ils étaient encore la majorité dans les années 80, parmi les enfants des années 80. Et en fait, le paradoxe, si vous voulez, c'est que malgré cet effondrement, le besoin de religiosité et de spiritualité, et donc probablement de croyance, ne fait pas du tout, lui, n'a pas disparu. Donc quelque part, il a été, cette demande, si vous voulez, aujourd'hui peut être remplie à la carte par un certain nombre de religions, j'allais dire, concurrentes, ou de systèmes de croyances concurrents. Et dans ces différents systèmes, on a justement consacré quelques pages au New Age, le chamanisme ou la sorcellerie, par exemple.
Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, Jean-Laurent Casly?
Ben, je dirais que c'est le renouveau de ces croyances magiques liées à la sorcellerie, aux envoûtements. On en trouve trace dans le sondage que vous mentionniez, dans la mesure où les jeunes, les moins de 35 ans, sont les plus nombreux à croire à ces envoûtements. Ils sont environ 40%. Et pour donner un exemple concret, dans l'émission populaire Les Marseillais, il y a eu un scandale l'année dernière, enfin au début de l'année, entre deux influenceuses de cette émission, deux participantes, car l'une d'elles a été accusée de lancer un sort, un envoûtement sur une autre candidate en ayant recours à une magicienne spécialiste de la magie rouge et noire. Et donc cela a créé un véritable scandale parmi les fans de l'émission. Ils n'ont pas du tout pris ça. Au contraire, c'est devenu vraiment un véritable scandale. Donc ça illustre, si vous voulez, à quel point une partie de la population prend ces sujets très au sérieux.
Ça vous fait sourire, Baptiste Beaulieu?
Oui, ça me fait sourire, gentiment, ça me fait sourire. Mais on veut tous y croire.
Jean-Laurent Casly, la pandémie a donné envie à certains Français de remettre de la magie dans leur vie, avec l'idée sous-jacente d'apaiser une certaine forme d'anxiété, de conjurer la peur liée à cette pandémie?
Oui, alors probablement. Je pense que il faut pas forcément moquer le retour de ces croyances et y voir aussi peut-être des explications curieusement rationnelles, dans la mesure où le monde est devenu assez illisible, et il l'est de plus en plus depuis la pandémie. On a parlé de la sorcellerie, mais on pourrait aussi évoquer le retour de l'astrologie. C'est une tradition qui trouve un regain d'intérêt, notamment encore une fois chez les jeunes et également chez une partie des catégories supérieures. Il y a vraiment un retour de cette mode qui était un petit peu ringarde, et on se rend compte que des gens alors se mettent à relire leur astrologie, mais je dirais d'une manière presque un peu au second degré, sans être totalement dupe en fait de la chose, mais en même temps se disent pourquoi pas se servir de cet aiguillon.
Thierry Ripoll, pourquoi ne faut-il pas se moquer de ces croyances infondées, de ce recours au merveilleux, au paranormal?
Oui, alors simplement, si je peux revenir un des points que vous avez abordé, bien sûr, il faut pas fustiger. Enfin, je veux dire, il faut pas être très critique vis-à-vis de ces croyances, ni même s'en moquer. Mais quand même, il faut aussi rappeler leur dangerosité.
Bien sûr,
il faut pas oublier quand même qu'il y a un business énorme autour des croyances, quelles qu'elles soient, en particulier d'ailleurs dans le domaine de la santé. Si vous regardez le rapport de la Miviludes, vous verrez que beaucoup de dérives sectaires se sont construites autour de cette thématique de la santé, avec des pratiques alternatives plus que douteuses. Donc il faut toujours avoir à l'esprit le potentiel danger que représentent les croyances, y compris même au niveau politique, puisqu'on voit aujourd'hui une espèce d'association pas tout à fait inexplicable entre l'extrême droite, les médecines alternatives, le mouvement anti-vax, etc. Ensuite, bien sûr qu'il ne faut pas se moquer des croyants. C'est la même chose pour les complotistes, d'ailleurs, parce que ce sont les mêmes processus cognitifs qui sont sous-jacents. L'écoute est nécessaire, et c'est d'ailleurs très difficile de permettre à un croyant de se libérer d'une croyance qui peut lui être très préjudiciable. C'est très difficile parce que la tentation est grande de s'y opposer frontalement, de dire mais arrête, tu peux pas croire quelque chose d'aussi absurde. Et ça ne marche pas du tout, parce qu'il faut effectivement garder à l'esprit que la croyance est un des plus puissants anxiolytiques qui existent. Et vous pouvez pas enlever comme ça un anxiolytique à une personne qui est en souffrance, parce que vous allez la fragiliser encore davantage, et elle va encore affermir sa croyance pour se protéger par rapport à cette menace que vous représentez pour elle en s'opposant à sa croyance. Donc ça, c'est extrêmement difficile, mais c'est sûr que l'attaque directe n'est pas forcément très efficace contre les croyances les plus dangereuses même.
Et Thierry Ripoll, je précise qu'il y a quelques semaines, nous avons consacré une émission aux dérives sectaires dans le domaine du bien-être et de l'ésotérisme. Yves-Alexandre Talman.
Oui, sur l'astrologie, ce que je fais personnellement avec mes étudiantes, mes étudiants, c'est tester l'effet Barnum. Donc plutôt que dire l'astrologie, c'est foutaise. Non, 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 il y a un système symbolique qui peut être intéressant. Mais on fait l'expérience en live, en classe. Hein.
C'est quoi l'effet Barnum ?
Alors l'effet Barnum, ça consiste à donner à tout le monde le même profil psychologique, soi-disant dressé par un astrologue. Et puis, les personnes doivent dire, avec une note allant de 1 à 5, jusqu'à quel point ça leur correspond. Et ce que l'on constate, c'est que ça marche redoutablement bien. C'est que des personnes, je l'ai fait la semaine passée encore, ont coché 5, donc ça me correspond tout à fait. Et la majorité des élèves, des étudiants, des étudiantes, étaient entre 4 et 3. Et après, on leur dit, voilà, l'effet Barnum, ça consiste à se retrouver dans des descriptions suffisamment générales, suffisamment vagues, pour que tout le monde s'y retrouve.
Pourquoi ça fait du bien de lire son horoscope le matin dans le journal ?
Ou alors, je sais pas, moi je le lis pas personnellement, mais quelque part on a l'impression que on saura un petit peu ce qui va se passer. Mais je précise quand même que vous avez dit fort justement, vous lisez votre horoscope. Si on était intéressé par la marche du monde, on devrait lire les 12 signes du zodiaque, mais on voit bien que nous sommes auto-centrés, c'est le biais d'auto-optimisme qui nous renvoie à nous et encore à nous.
Merci Jean-Laurent Casselli d'être intervenu dans l'émission. Dans quelques instants, nous verrons pourquoi certaines croyances ont des vertus anxiolytiques et anti-stress. Ce sera juste après les Doors. Light my fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. The time you wallow in the mire. China, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Ça fait du bien, Baptiste Beaulieu, les Doors, Light My Fire.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
10h30, pourquoi avons-nous besoin de surnaturel? C'est notre question ce matin avec le mensuel Ça m'intéresse. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Je vous propose d'écouter la navigatrice Isabelle Autissier.
C'est un peu exagéré, animiste, parce que ça a l'air de vouloir dire que c'est une religion. Non, ce que je veux dire, c'est que on se met, par exemple, on parle à son bateau, on parle au vent, on parle à la mer. J'attends pas qu'ils me répondent, hein. Et j'attends même pas d'ailleurs de signes. Ce que pouvaient faire les animistes, qui pouvaient attendre des signes de différents éléments ou des animaux ou des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on comprend mieux quand on est dans ces milieux maritimes extrêmement loin de certaines rationalités terrestres. On peut très bien se construire une autre rationalité. On peut très bien voir des signes partout et interpréter les choses. Et le fait de parler aux nuages, bah, ça peut être un défouloir parce qu'on les engueule, parce que ils sont pas
comme on veut. Qu'est-ce que vous leur dites, par exemple?
Ah, bah, je leur demande ce qu'ils foutent là. Je leur dis que c'est vraiment pas le moment. Je leur dis que la rafale, c'est pas le bon moment. C'est pas bien. Enfin voilà. Mais c'est une façon aussi pour moi de me défouler. Puis évidemment, quand on est en solitaire, c'est une façon de s'adresser quand même à quelqu'un ou à quelque chose. Et ça, l'être humain en a besoin. Donc, mais c'est vrai qu'on comprend mieux, en tout cas, ce besoin de l'humain de se créer des entités à côté de lui ou au-dessus de lui ou je sais pas où quand on navigue.
Alors, que vous inspire ce témoignage de la navigatrice Isabelle Autissier, Yves-Alexandre Talman? Je rappelle que vous êtes professeur de psychologie au Collège Saint-Michel de Fribourg.
Moi, je parle aussi à ma moto et à ma voiture quand je l'utilise, vous pas?
Oui, c'est vrai.
Mais oui, je dois dire que si je suis isolé en pleine nuit dans une forêt que je connais pas, j'aurais plus facilement tendance à évoquer des éléments hors de la rationalité que si je suis en plein Paris à midi. Hein.
Thierry Ripoll, professeur en psychologie à l'université Aix-Marseille.
Oui, alors ce que dit Isabelle Autissier est tout à fait juste et me rappelle une remarque qu'avait faite déjà Bronislav Malinowski, donc un anthropologue, qui avait étudié des personnes habitant les îles du Pacifique, et il s'était aperçu qu'au sein de la même communauté, il y avait des marins qui pêchaient dans le lagon et d'autres qui pêchaient à l'extérieur du lagon. Et effectivement, quand on pêche à l'extérieur du lagon, c'est infiniment plus dangereux que quand on est sous la protection du lagon. Et il s'était aperçu que les marins qui allaient au large, non seulement développaient beaucoup de rituels avant de s'embarquer, mais en plus avaient formulé énormément de croyances et avaient un rapport très particulier avec les éléments sous forme de ces éléments perçus comme des êtres animés, c'est-à-dire dotés d'un esprit. Et il avait supposé que c'était le niveau de stress engagé par une navigation hauturière qui était à l'origine de ce niveau de croyance exacerbée. Et cette intuition qu'a eue Malinowski, c'est ce dont fait état Isabelle Autissier, mais ça a été totalement validé empiriquement de multiples manières aujourd'hui au travers de la psychologie expérimentale, c'est-à-dire que le stress effectivement est le premier carburant des croyances infondées. Alors, il faut qu'il y ait un moteur, c'est le cerveau, mais le stress est le carburant. Et dès lors qu'on est en situation de stress, en situation de perte de contrôle, naturellement, on va produire des croyances infondées.
Si je vous je vous comprends bien, Thierry Ripoll, toucher un gris-gris avant de prendre la parole en public ou avant de prendre l'avion, ça n'a évidemment pas d'efficacité sur le réel, mais c'est très utile.
Ah oui, ça peut être extrêmement utile. Par exemple, dans le domaine sportif, le domaine du sport de haut niveau, on sait très bien que beaucoup de sportifs ont des rituels parce que ce sont des situations très stressantes, hein, la compétition sportive au haut niveau. Ils ont des rituels et s'ils ne peuvent pas pratiquer leur rituel, en général, c'est plutôt mal parti. Et c'est d'ailleurs un gros problème pour les coachs parce que les coachs sont parfois très rationnels et savent que ces rituels, en fait, n'ont aucune efficacité sur le réel, mais ils savent aussi qu'ils ont une efficacité sur le cerveau de la personne. Et si le rituel fonctionne, c'est parce qu'il a un effet très particulier sur le cerveau qui va faire que l'individu va soudainement, grâce au rituel, avoir davantage confiance en sa performance. Et la confiance est, vous savez, le premier moteur du succès.
Yves-Alexandre Talman.
Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que le rituel, par définition, c'est un automatisme. Et donc, si le cerveau passe en mode automatique au niveau sportif, il va être meilleur. Hein. On sait très bien qu'avant de tirer le penalty, celui qui réfléchit trop, il a plus de chances de le rater. Hein. Donc, Rituel, automatisation, donc plus de performance. On pourrait le lire comme ça aussi.
Baptiste Beaulieu.
Oui, mais c'est incroyable de voir comment la pensée magique dirige nos vies, dans le sens où, moi, par exemple, en tant que docteur en médecine, quelqu'un de plutôt rationnel, si vous me demandez, Ali, de dire telle personne aujourd'hui va mourir, alors que je l'aime, cette personne, je ne vais pas le dire, parce que j'ai peur de tenter le sort. Alors que je sais, en tant que scientifique, que le fait de dire cette phrase ne changera absolument rien à la destinée de cette personne aujourd'hui. Et pourtant, on ne le dit pas. On ne le dit pas.
Moi, j'avais une question.
Frédéric Carpita, ça m'intéresse.
Merci. Est-ce que vous pensez que les hommes politiques, parce qu'on parle toujours des, quand on donne, on l'a fait nous dans le dossier, on parle toujours des grands sportifs, etc., avec, et de leur rite avant d'entrer sur un court de tennis ou sur une pelouse de foot. Mais les hommes politiques, ils sont, enfin, je pense que la notion de pouvoir, il y a une part de peut-être d'irrationnel aussi. Je ne sais pas si vous avez eu des cas ou si vous avez rencontré des gens qui avaient des exemples ou des témoignages.
Oh ben l'ancien président François Mitterrand, hein, qui avait son astrologue attitré, Elisabeth Tessier.
C'est vrai, j'oublie.
Donc une partie peut-être du destin du pays a été influencée par une astrologue.
Thierry Ripoll.
Oui, c'est tout à fait. Donc c'est un peu ce que je voulais dire et c'est assez dramatique. Bon, d'abord, il faut rappeler que les hommes politiques sont des hommes comme les autres et que ils ne sont pas plus rationnels que les autres. Et si on assiste, on regarde les débats politiques aujourd'hui, on peut facilement s'en rendre compte. Mais dans l'histoire, le cas d'hommes politiques contemporains ou anciens qui se sont effectivement fiés à des astrologues ou d'autres médiums pour prendre des décisions. C'est considérable et c'est vraiment dangereux quand on sait que parfois des décisions majeures peuvent être prises dans ce contexte. C'est quand même un des cas où la croyance peut s'immiscer dans un domaine où la rationalité, l'analyse devraient être maximisées.
Alors en début d'émission, nous écoutions un monsieur qui croyait dans les vertus de la source miraculeuse de Jarvelac. Et dans ce sens, Manon nous demande comment expliquer les cas de guérison miraculeuse à Lourdes. Est-ce lié à un puissant effet placebo? Yves-Alexandre Talman, vous êtes intéressé à cette question dans votre livre.
Oui, j'ai repris les données d'autres chercheurs. Mais je dois dire que de façon assez malicieuse, ce qui m'a intéressé, c'est en fait les cas de tomber malade, entre guillemets, à Lourdes. Parce que ça arrive aussi, mais ça, on en parle un petit peu moins. De façon plus sérieuse, quand on compare en fait les rémissions spontanées, donc les guérisons sans explication ou sans traitement, hein, on se rend compte qu'il y en a autant, si ce n'est plus, dans les hôpitaux, simplement, qu'en allant à Lourdes. Mais évidemment, notre esprit va retenir davantage les guérisons à Lourdes, et donc après, par biais de confirmation, on va y revenir, que les guérisons spontanées ailleurs.
Et des études très sérieuses ont montré que l'on a plus de chances de connaître une guérison inexpliquée à l'hôpital qu'après une visite à la grotte miraculeuse de Lourdes. Et puis, il faut rappeler qu'il existe une écrasante majorité de malades qui ne guérit pas en allant à Lourdes.
Oui, et il ne faut pas oublier du reste que l'Église catholique est très très prudente sur ces guérisons miraculeuses. Il faut beaucoup beaucoup de critères. Parce qu'imaginez que j'ai suivi un traitement pendant des années et que je me rends à Lourdes et que je suis guéri. Est-ce que c'est l'effet de la grotte de Lourdes ou bien est-ce que c'est l'effet du traitement qui, avec du recul, hein, a donné la guérison? Donc c'est extrêmement délicat si on veut avoir une étude scientifique à ce sujet.
Thierry Ripoll.
Oui, ce que je pense qu'il faut rappeler, c'est que lorsqu'on évalue l'efficacité thérapeutique d'une thérapeutique quelconque, en fait, on a quatre cas de figure. Hein. Soit on traite et on guérit ou on ne guérit pas, soit on ne traite pas et soit on guérit, soit on ne guérit pas. Donc il y a vraiment quatre cas de figure qui font l'objet d'une statistique et qui permettent de dire si le médicament était efficace ou non. Et on s'est aperçu dans des expériences que l'on a conduites que les personnes qui sont les plus intuitives, les plus croyantes de manière au sens général du terme, sont des personnes qui vont avoir du mal à accorder leur attention à ces quatre conditions et ne vont être attentives qu'au cas où on a traité avec le médicament et où on a guéri. Ce qui fait que ça biaise complètement les résultats et que ça donne l'impression à beaucoup d'une efficacité thérapeutique en l'absence même d'efficacité thérapeutique. C'est ce qui fait, par exemple, que quand vous interrogez des personnes qui se soignent à l'homéopathie et que vous leur demandez pourquoi elles pensent que ça marche, eh bien, elles vont vous dire, parce que ça marche sur moi. Mais comment elles concluent que ça marche sur elles? Simplement à partir de ce biais que je viens d'indiquer, c'est-à-dire qu'elles regardent, elles sont attentives au fait qu'elles ont été guéries par la prise de médicaments, mais elles n'ont pas fait attention au cas où elles pourraient être guéries sans prise de médicaments. Et c'est exactement ce qui se passe, bien sûr, à Lourdes. C'est comme ça que cette mythologie de l'impact thérapeutique de Lourdes s'est propagée dans le monde. C'est à partir de ce biais.
Et Thierry Ripoll, quel est le rôle de la foi, de la croyance en Dieu quand on est malade ?
Alors, ça, le rôle est très très important. Il y a des tas d'études qui sont parfaitement empiriques, incontestables, qui montrent que déjà les personnes qui croient en Dieu ont tendance, en moyenne, à vivre un peu plus longtemps que les personnes qui ne croient pas en Dieu. Alors, il peut y avoir d'autres facteurs confondus, mais c'est un fait. Et l'autre fait, c'est que on a observé que lorsque des personnes étaient atteintes d'une maladie grave, par exemple un cancer, leur résilience était accrue lorsqu'elles étaient croyantes. Donc, factuellement, le fait de croire à quelque chose, d'aussi puissant que la croyance en un Dieu qui potentiellement vous aime, joue un rôle énorme dans la guérison de malades. Donc, de ce point de vue-là, les croyances ont une certaine efficacité.
Et est-il vrai qu'avoir la foi vous expose à moins d'épisodes dépressifs ?
Alors, c'est assez difficile parce que les études épidémiologiques sur ce point-là sont très très complexes à réaliser. Ce que je dirais simplement, c'est que le fait de développer une foi, par exemple de type religieuse, à un moment de votre vie, à un moment par exemple de grande souffrance personnelle, est quelque chose qui peut participer à votre rétablissement, ou en tout cas à récupérer un équilibre psychique et un peu sortir d'une souffrance trop grande. Ça, c'est vrai.
Alors, beaucoup de messages qui vont dans le même sens. Comment repérer une dérive sectaire ? Comment ne pas tomber sous l'emprise d'un charlatan, d'un gourou qui s'appuie sur le paranormal, le merveilleux, le surnaturel ? Yves-Alexandre Talman.
Je dirais que de prendre conscience de ce biais de confirmation, c'est déjà une bonne chose, puisque ça nous amène après à aller chercher, à mettre notre attention sur ce qu'on pourrait appeler l'effet hostile, c'est-à-dire les informations qui iraient à l'encontre de la doxa ou du dogme ou de la parole du gourou pour relativiser. Mais c'est en fait la démarche scientifique, si on y réfléchit, c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on exerce le doute par rapport à une hypothèse pour la vérifier ou au contraire l'infirmer.
Thierry Ripoll.
Vous savez, il y a des, comment dire, des caractéristiques qui reviennent souvent dans le fonctionnement d'un gourou. La première, c'est peut-être que souvent ils vous invitent à ne plus réfléchir, mais à penser de manière intuitive, parce que ils savent de manière totalement inconsciente, quasiment, que dès qu'on passe en mode intuitif, on est un peu plus prêt à gober à peu près n'importe quoi. La deuxième chose, c'est qu'en général, ils ont tendance à vous renvoyer une image positive de vous. Et donc, ils gonflent un peu votre ego, votre narcissisme, et ça fait du bien. Et la troisième chose, c'est qu'en général, ils vous promettent une solution radicale qui va vous permettre de résoudre tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Et quand on nous offre des propositions de ce type, on devrait toujours s'alerter et dire que dans la vraie vie, ça n'existe pas.
Frédéric Carpita, vous avez, pour ça m'intéresse, rencontré des spirites, des médiums, des géobiologues, des sorcières vicanes, des chamanes.
En fait, finalement, je me suis rendu compte en relisant l'ensemble que on a une espèce de petite cartographie en fait du paranormal, c'est-à-dire qu'on a en effet les gens qui vous mettent en contact avec les esprits ou les défunts. Je sais pas comment exactement les définir. Et il y a un autre courant qui est, lui, qu'on est en train de voir se développer. C'est un courant plutôt animiste, le retour des druides. Alors qu'ils n'ont pas voulu, en tout cas, nous parler directement. Mais en tout cas, je pense que cette branche-là, elle a une raison. C'est tout simple. Enfin, c'est un rapport avec la nature. Et en plus, l'inspiration via le chamanisme avec des pratiques qui sont, elles, qui ont été documentées, qui sont sans doute beaucoup plus séduisantes en fait que une roulotte avec une dame qui vous lit les lignes de la main. Est-ce que vous avez l'exemple de personnes qui seraient passées d'une pratique à l'autre? Ça m'intéresse en fait.
Yves-Alexandre Talman.
Alors, je ne sais pas si on passe comme ça d'une pratique à l'autre, mais souvent la cartomancienne fait aussi d'autres mancies ou d'autres stratégies. Ce que je dois dire, c'est qu'il existe encore une autre catégorie
C'est des personnes qui, sans adhérer totalement, y viennent. J'ai cité dans le livre une étude assez charmante par ailleurs sur l'agentivité de la pensée, où en fait on manipule un peu les sujets, comme c'est souvent le cas dans les études de psychologie, et on leur dit que grâce à un appareil assez sophistiqué, elles vont pouvoir entendre des pensées de quelqu'un d'autre. Donc on agit sur la transmission de pensées. Et évidemment tout est fait et tout est fin, mais on demande à la personne de noter les pensées qui lui paraissent provenir d'ailleurs. Et cette expérience est assez étonnante, puisque au bout d'un moment, quasiment tous les sujets, je ne me souviens plus du taux exact, disent « voilà, ce mot-là, il provient d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai pensé ». Et donc, ça nous dit qu'on a tous notre esprit qui vagabonde, hein, on ne contrôle pas toutes nos pensées, on parle du vagabondage mental, mais quand on commence à l'attribuer à quelqu'un d'autre, vous voyez que là, on a fait un pas. Et beaucoup de personnes vont, dans certaines conditions, dire « ben voilà, j'ai entendu un message qui vient de l'au-delà ou d'un parent défunt ».
Vous savez que grâce à mon casque, j'entends vos pensées les plus intimes, Yves Alexandre Salman. Allez, 10h46, il est déjà temps de retrouver la chronique, alors voilà, de notre médecin et romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu.
Oui, Ali, vous savez, tous les médecins ont l'anecdote, la grande avec un A majuscule, celle qu'ils racontent le soir du repas de Noël à leur famille. Ben moi, c'est celle-là. Je ne sais plus quel âge j'ai, alors je suis étudiant à l'école de médecine, externe en service de néphrologie. On accompagne, entre autres, les patients nouvellement transplantés. Et parmi eux, une patiente, 19 ans, elle a un rein tout nouveau, tout beau, mais du fond de son lit d'hôpital, elle se plaint de cauchemars. « Toujours le même », dit-elle. « Et c'est chaque nuit depuis l'opération. Je suis dans un centre commercial, il y a ce train énorme qui me fonce dessus. » Alors je me souviens que le chef de service lui explique que les antalgiques peuvent parfois provoquer des trous du sommeil, des cauchemars. Il n'empêche, à chaque fois qu'elle nous parle de ses rêves, je regarde le chef, qui regarde la patiente, qui regarde son père, qui regarde l'infirmière, qui me regarde, on se regarde, personne ne dégaine. Finalement, tour de passe-passe, le chef sort un lapin de son chapeau, on va baisser les morphiniques. Basta, fin de l'explication et nous quittons la chambre. Moi, petit garçon qui veut croire à la magie, je dis, mais c'est quand même bizarre, quelle est la probabilité mathématique parmi tous les rêves possibles pour qu'elle fasse celui-là? Alors le chef, nouveau lapin sorti de son chapeau, écoute, je suis pas statisticien ni mathématicien, et voilà. Et voilà. Eh bien oui, Ali, parce que le rein tout neuf de cette patiente vient d'un suicidé de 28 ans qui s'est jeté sur des rails. Et je veux dire, en France, le don est anonyme, personne ne sait rien sur le donneur, hormis le chirurgien et quelques personnes parmi le personnel de l'hôpital. Comment peut-elle savoir? A-t-elle entendu l'un d'entre nous en parler durant l'opération? Et comment serait-ce possible, sachant que le cocktail d'une anesthésie générale comprend un amnésien? Et je n'ai jamais eu le fin mot de cette histoire, Ali, je sais juste une chose, c'est que parmi toutes les hypothèses expliquant cette histoire, j'ai tendance à en privilégier une qui ne répond pourtant à aucun des critères d'exigence rationnelle que j'applique habituellement à ma pensée et à ma pratique scientifique. Pourquoi privilégier cette hypothèse plutôt qu'une autre? Parce que, tout simplement, elle apaise en moi un chagrin et une angoisse que je ne me connaissais pas. On a tous et toutes besoin d'un inframonde ou d'un supramonde. On a tous besoin de mystères, qu'ils viennent d'en bas ou qu'ils viennent d'en haut. Mais justement, ce besoin, Ali, il n'est pas forcément bon conseiller. Il ne nous rend pas objectifs, mais il nous rend attentifs. Et il nous fait retenir comme une passoire ce qui, dans la grille de compréhension du monde, nous permettra d'être apaisés. Par rapport à notre peur d'être seul dans l'univers, par rapport à notre peur de n'être plus rien après cette vie, de ne pas retrouver après la mort les personnes qu'on a aimées et qui nous ont aimées. Ces angoisses existentielles, elles sont puissantes. Elles favorisent les bien-interprétations, mais elles inspirent aussi les artistes. On ne construit pas Notre-Dame si on ne croit pas en quelque chose qui nous dépasse. On n'érige pas le Taj Mahal si on n'est pas violemment en colère contre la mort. Le paranormal et ses explications sont des moteurs, mais ce sont aussi des pansements. Des pansements posés sur l'enfant en nous qui craint très fort et le noir de la mort et la nuit infinie de l'espace. Parce que, comme le dit magnifiquement Stieg Dagerman dans son essai du même titre, notre besoin de consolation est impossible à rassasier.
Réaction d'Yves Alexandre Talman, l'auteur de La Tentation du Paranormal.
Cette patiente, quelque part, il existe des stratégies pour modifier ses rêves, étant donné qu'on a maintenant des théories, ou plutôt des éléments de connaissance qui nous amènent à dire que les rêves sont la continuation nocturne de nos préoccupations diurnes. Mmh. Et donc, on peut imaginer une fin plus heureuse à nos rêves récursifs. de façon à ce que le train s'arrête juste à temps. Et c'est une autre façon d'aborder la chose. On ne saura peut-être pas, mais en science, quand on est dans l'irreproductibilité, ben, on s'arrête. Mmh. On n'est pas dans la science. Mais par contre, on peut quand même aider la jeune femme en question à se débarrasser de son angoisse.
Et vous pouvez partager la chronique de Baptiste Beaulieu sur l'appli France Inter. Restez avec nous juste après le disque. Baptiste Beaulieu et le docteur Gérald Kirzek nous diront s'il est utile de vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans. Ce sera juste après Alexia Grédy.
De la douceur de tes mots, j'ai gardé juste le meilleur. Pour mes erreurs, les jours de trop, je n'ai jamais été à l'heure. Si les messages et les rancœurs restent ancrés dans mes os, parfois je pleure en décalage. J'aime l'amour vertigo. Je suis passé par le banc. Patiente, jour après jour, j'en fais le tour. Pourquoi j'ai peur, je paraphrase. Pourquoi je pleure en décalage. J'aime l'amour vertigo.
Alexia Grédy interprétée Vertigo.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
10h53 et c'est le retour de la question Covid. Faut-il vacciner les enfants entre 5 et 11 ans? La question de leur vaccination est évoquée aujourd'hui lors du Conseil de Défense. Une campagne de vaccination qui pourrait débuter dès janvier 2022 sur la base du volontariat. Il s'agira de doses pédiatriques. La Haute Autorité de Santé recommande de ne vacciner que les 360 000 enfants souffrant de comorbidité. Bonjour docteur Gérald Kirzek.
Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous.
Urgentiste, anesthésiste animateur à l'Hôtel Dieu à Paris, directeur éditorial du site Doctissimo. Question simple, faut-il ou non vacciner, selon vous, les 5-11 ans?
La réponse, elle est non, enfin, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'on voit bien que la balance bénéfice-risque, elle est défavorable. Il n'y a pas de bénéfice à une vaccination, bénéfice individuel pour les enfants, parce qu'ils n'ont pas de risque de forme grave, sauf exception. Et quand je regardais les chiffres depuis mars 2020, il y a moins de 1% des patients hospitalisés qui ont moins de 11 ans et qui sont avec des formes graves. Et très très peu de décès. C'est vraiment des enfants qui sont très à risque. Donc la position de prudence, c'est de dire il n'y a pas de balance bénéfice-risque favorable, on ne les vaccine pas. La deuxième chose, on a bien vu que le vaccin n'empêche pas la transmission. On voit bien que la transmission continue. Et je vais même plus loin, c'est même intéressant d'avoir une transmission virale chez les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils font des anticorps, ils font une immunité cellulaire et ils font une barrière finalement au virus. C'est ce qu'on appelle l'immunité naturelle, pas l'immunité collective, mais l'immunité naturelle. Donc ça pourrait aider à lutter contre l'épidémie, cette immunité naturelle. Donc la prudence, pas de bénéfice, une immunité naturelle et des risques, j'allais dire principes de précaution à long terme qui sont par définition inconnus, tout ça plaide pour une prudence extrême.
Baptiste Beaulieu.
Oui, je suis plus dubitatif sur l'idée de l'immunité naturelle, parce que l'immunité naturelle, c'est aussi ce qui faisait que quand on n'avait pas les antibiotiques ou quand on n'avait pas toutes les thérapeutiques qu'on a actuellement, y compris les vaccins, ben, l'espérance de vie, quand on était enfant, elle ne dépassait pas les 10 ans. Donc, je suis plus dubitatif sur cette histoire d'immunité naturelle. Après, je pense qu'il faut répondre à cette question par la logique et par les probabilités. C'est qu'il faut expliquer la biologie aux gens. L'ARN, c'est la partie la plus fragile et délicate d'un virus qu'on puisse prélever. Et on n'injecte qu'une minuscule partie de cette minuscule partie. Quand vous êtes contaminé par le virus du Covid, c'est tout le virus qui pénètre dans votre organisme, c'est tout l'ARN du virus qui va pénétrer dans vos cellules, s'y multiplier encore et encore et faire réagir le système immunitaire. Donc le virus circule, il n'y a pas de scénario où on ne va pas le rencontrer. Alors, personnellement, je pense qu'il vaut mieux rencontrer le vaccin, oui, il vaut mieux rencontrer une minuscule partie de cette minuscule partie de l'ARN viral plutôt que la totalité du matériel génétique et protéique d'un virus qu'on ne connaissait pas vraiment il y a 2 ans.
Gérald Kierzek.
On a l'impression que le vaccin et la politique vaccinale va être la solution à cette épidémie et l'arrêt de l'épidémie. On voit bien que c'est pas le cas. Il faut vacciner les plus fragiles. Là, ça évite les formes graves et on voit que ça fonctionne plutôt bien puisque globalement, même si on a des chiffres de contamination qui explosent, j'allais dire, c'est pas très grave. À partir du moment où vos patients vulnérables, les plus fragiles, ne se retrouvent pas hospitalisés ou ne décèdent pas. Et c'est ce qui se passe. Il y a une décorrélation avec des cas de contamination. Et là, le message, c'est stop à la panique de ces chiffres de contamination. Parce que les hospitalisations et en réanimation en particulier ou les décès, eux ne bougent pas. L'Angleterre, c'est la même chose. L'Angleterre, depuis des mois, ils ont 50 000 contaminations par jour, mais finalement, ça bouge pas sur les hospitalisations. Donc déjà, stop à la panique et surtout croire que le vaccin et uniquement le vaccin va stopper cette épidémie, c'est une chimère, c'est une illusion. J'allais dire encore plus chez les enfants, puisque de toute façon, ça n'empêche pas la transmission. Les enfants, ça circulera entre eux et il n'y a pas de risque sur les hospitalisations. Donc je pense que cette maladie Covid, ou en tout cas cette épidémie de PCR positive, puisqu'il faut parler de ça hein, pour l'instant, c'est des tests positifs, c'est une épidémie hivernale, on est sur une vague, qui est une vague qui est décorrélée des hospitalisations, il faut se reculer un peu de ces chiffres-là, laisser nos enfants vivre, il y a autre chose hein, sur lequel on pourrait revenir, c'est le masque aussi chez les enfants qui paraît complètement aberrant, c'est-à-dire tous les hivers il y a des épidémies, tous les hivers il y a des enfants qui se contaminent, je crois qu'il faut les laisser un peu vivre, et vraiment encore une fois, moi je suis pas du tout anti-vax et je suis pro-vax pour les patients qui sont à risque, mais les gamins ont zéro risque, donc il faut vraiment être extrêmement prudent dans un principe de précaution. Encore une fois, il n'y a pas de risque à court terme, mais des risques à moyen ou long terme, on n'en sait rien. Je suis d'accord avec Baptiste qui disait c'est l'ARN, etc. On sait que l'ARN est détruit très rapidement. Le problème, c'est qu'il y a la protéine spike, que ça induit une inflammation un peu généralisée, ce qui est le but, hein, puisqu'il faut qu'on produise des anticorps. Mais attention, parce que les études de toxicologie, on n'a pas de recul, notamment de recul sur le très long terme, et c'est normal.
Un mot de conclusion, Baptiste Beaulieu.
C'est normal entre scientifiques d'être parfois en désaccord. Je crois simplement que c'est important qu'effectivement, si on a peut-être, d'après certains, on manque un petit peu de recul sur les effets à long terme ou à moyen terme du vaccin, on manque encore plus de recul sur les effets du Covid lui-même, sur ses effets chez les enfants à long terme.
Merci beaucoup Gérald Kierzek et merci Baptiste Beaulieu. Merci Thierry Ripoll, je recommande Pourquoi croit-on publié aux éditions Sciences Humaines. Merci Yves-Alexandre Talman, La tentation du paranormal est publié chez Humaine Science. Merci Frédéric Carpita, le numéro de Ça m'intéresse, croire au merveilleux est disponible en kiosque. Demain, comment ne pas se disputer pendant les fêtes, peut-être en évitant de parler de vaccins, etc. Et vous, quel est votre secret pour rester zen pendant ces réveillons en famille ou entre amis? N'hésitez pas à nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter.